Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, toute l'équipe de l'heure du crime est là pour cette nouvelle édition. Justine Vigneault, Laure Broulard et c'est Sébastien Rocheron qui tient d'une main ferme les manettes techniques de cette émission. Et tout de suite, on va faire référence à cette histoire que j'ai commencé à raconter rapidement à Christelle Rebière et Vincent Parisot tout à l'heure, juste avant les infos. S'il fallait donner un titre à cette histoire qui ressemble à un roman de Simenon ou à un roman de d'Agatha Christie, moi j'aurais pensé à Requiem pour un Lord. Bonjour Paul Lefebvre.
Bonjour. Ah, c'est une très bonne idée, un bon titre.
C'est joli. Parce que j'étais obsédé par ça, parce que j'avais lu cette histoire, je l'ai découverte moi, sur le blog d'une de nos consoeurs.
Éminente
et brillante, talentueuse du monde, Pascal Robert-Diard. Et elle avait intitulé cette histoire qu'elle racontait à l'époque, c'était il y a 10 ans tout ça, mais on va donner l'explication dans un instant. Elle avait commencé son récit en disant c'est une histoire que Simenon aurait aimé.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est vrai.
C'est vrai, hein. Tout tourne autour d'au fond de deux personnalités, mais la personnalité qui m'avait intéressé le plus après avoir regardé le, c'était celle du vieux Lord, qui était pas si vieux que ça d'ailleurs.
Oui, 66 ans.
Ouais, ouais. Enfin bon. Et alors, ce type-là, hein, non, parce qu'il y a que des jeunes ici. Vous verrez, ça arrive.
Oui. Oh, il y en a qui sont en pleine forme à cet âge-là.
D'accord. Alors, donc ce Lord qui était un fêtard, un gourmand, puis un type qui aime les hôtesses mondantes. Oui. Et puis quand on creuse le dossier, on s'aperçoit que c'est un homme qui a eu une enfance déstructurante, hein, il a perdu son père, etc., etc., oui. Et qui a eu une douleur énorme, la perte de sa femme, qui l'a également déséquilibré,
oui,
etc.
Oui.
Et ce type-là, qui d'ailleurs, à part ça, rien à foutre, oui, qui n'avait d'ailleurs pas cherché dans sa vie il avait une énorme fortune.
Je parle sous votre contrôle, parce que je sais que vous connaissez très très bien ce dossier, pour ça que je vous ai invité. Il avait même donné ou transmis son titre de lord, crois, à un de ses fils.
Un de ses fils. L'un de ses titres, parce que il y avait deux douzaines.
Oui.
Hein,
bon. Oui, comme notamment
dans les grandes, oui, dans les grandes familles anglaises.
Shaftesbury.
Sa malédiction, ce type-là, c'est qu'il aimait le whisky, la vodka surtout, et les jolies femmes.
Oui.
Qui n'était pas trop résistante, quoi.
Oui, mais ça, on va en parler dans un instant, parce que je vais revenir sur le contexte. Oui. Mais du côté policier, c'est aussi, et justice, c'est aussi une affaire passionnante.
Ah oui, c'est une affaire passionnante, parce qu'au départ, dès le départ, la brigade criminelle pense tout de suite au coup fourré. Parce que ces garçons ont l'habitude un petit peu de ces jeunes femmes, etc. Et lui, il était signalé par les policiers, ou policiers de Nice, et de Cannes, était signalé par son assiduité dans ces lieux de perdition, etc. Bon. Mais en même temps, quelque part, on le surveillait un peu, parce qu'il y a quand même une notabilité, etc. Et lorsque on découvre sa disparition, c'est ce qui fait que ça disparaît. Est entre guillemets signalé en disant où est-il lui. Et ça commence comme ça. Et comme il connaissait la comtesse, parce qu'il se sent, il l'avait épousé, hein, bon, c'est un mec qui épousait beaucoup. Attendez, il y a un coup fourré là-dessus.
Alors, on va revenir ensemble, évidemment, dans le détail de ce dossier absolument passionnant. Nous aurons également, pendant l'émission, je voudrais le dire tout de suite, en ligne, Maître Philippe Soucy, du barreau de Nice, qui est l'avocat de la famille du Lord, évidemment, qui l'a représenté au moment du procès, dont nous parlerons. Et puis, évidemment, et c'était tout naturel, de donner également la parole dans cette émission à celui qui avait été l'avocat de la principale accusée. Il y a deux accusés, vous allez découvrir ça dans un instant, mais la principale que la justice pense avoir été la commanditaire de cet assassinat, Maître Franck De Vita, a bavardé longuement ce matin avec Laure Broulard. On entendra un extrait de cette conversation. Pour lui, il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Alors, avant de parler des zones d'ombre, on va déjà parler de ce qu'on sait. Je vais en quelques instants repasser un peu en revue l'histoire de cet Anglais donc excentrique qui était venu s'encanailler pour son plus grand malheur dans les bars à hôtesse de la Côte d'Azur. Donc, de cette triste histoire s'appelle Sir Anthony Ashley Cooper, 10e comte de Shaftesbury. C'est un personnage, comme le disait Paul Lefebvre il y a un instant, haut en couleur, séduisant, 1m80, toujours tiré à quatre épingles, ancien pilote de la Royal Air Force, passionné d'opéra et de jolies femmes. Pur produit de l'éducation anglaise, il a fait ses études à Eton, puis ensuite à l'université d'Oxford. Son lointain ancêtre, le premier comte, avait fait voter l'habeas corpus à la fin du XVIIe siècle. Le troisième comte de Shaftesbury était l'ami de Voltaire. Le septième s'était battu contre le travail des enfants à l'époque de la révolution industrielle. Et lui, eh bien, lui, il monte à cheval, il voyage. Il se consacre plusieurs mois par an à son domaine et à la protection de la nature. Et il fait planter des milliers d'arbres. Il protège aussi les papillons rares et les chauves-souris. Mais en réalité, Sir Anthony Ashley Cooper est surtout profondément triste. Il ne s'est jamais remis de la mort de son père lorsqu'il avait 6 ans, ni de la disparition de sa mère à la suite d'un cancer foudroyant en 1999. Depuis, il promène son ennui, sa tristesse profonde au soleil de la Provence, à l'atmosphère guindée de la haute société britannique. Il préfère, c'est vrai, celle des grands hôtels et aussi celle des bars à hôtesses où il est toujours bien accueilli, parce que quand il arrive, évidemment, l'argent, le champagne et le whisky coulent à flot. Selon l'expression populaire, on pourrait dire qu'il brûlait la vie par les deux bouts. Et comme le comte est aussi, on ne l'a pas dit, on l'a laissé entendre, un vrai cœur d'artichaut, après s'être séparé de ses deux premières épouses, eh bien, il s'est amouraché en 2002 d'une call girl hollandaise d'origine marocaine, Jamila Mbarek, qu'il finit par épouser. Il l'appelle sa petite gitane et elle est pour lui sa comtesse aux pieds nus. La belle romance de l'aristocrate et de l'entraîneuse devenue comtesse va durer en fait un peu moins de 2 ans. En effet, au quotidien, Anthony est aussi difficile à vivre. Il est volage, il boit beaucoup. Comme pour se faire pardonner, d'ailleurs, il a fait don à Jamila d'un appartement de 600 000 euros à Cannes, d'un moulin dans le Gers. Et chaque mois, il lui attribue entre 7 et 10 000 euros d'argent de poche. Quelques mois avant le drame, Anthony et Jamila finissent par se séparer. Le Lord a en effet rencontré, dans un bar de Nice, encore une fois, une jeune serveuse dont il est fou amoureux, un coup de foudre. Elle s'appelle Nadia et cette fois, il en est sûr, c'est la femme de sa vie. Alors, il a mis le marché en main à Jamila. Il lui laisse l'appartement et la propriété du Gers, plus 400 000 euros pour solde de tout compte, à condition, bien sûr, à condition qu'elle ne s'oppose pas à un divorce à l'amiable pour qu'il puisse épouser Nadia. Si elle refuse, il l'a prévu, il la menace d'engager avec son avocat une action en révocation de sa donation. Et Jamila accepte. Le 3 novembre 2004, Lord Shaftesbury arrive à Cannes en provenance d'Angleterre. Il va s'installer au Noga Hilton. Le 5 novembre, après avoir vidé le minibar de sa chambre, il passe une partie de l'après-midi à boire, encore, au bar de l'hôtel qu'il quitte en début de soirée. Cette nuit-là, il ne passe pas la nuit dans l'hôtel. Dans les jours qui suivent, il ne donne aucun signe de vie. Alors, des membres de sa famille, inquiets de rester sans nouvelles de lui, alertent les autorités françaises. Connaissant son mode de vie, disons, agité, ils craignent que le Lord ait eu un accident. Peut-être est-il hospitalisé sans ses papiers dans un hôpital de la région. Jamila, bien sûr, est interrogée par la police. Elle leur dit que Anthony est arrivé chez elle ivre le 5 novembre au soir, qu'ils ont une dispute à propos du divorce, mais qu'Anthony a ensuite quitté cet appartement et qu'elle n'a plus non plus aucune nouvelle de lui depuis. Elle ne sait pas ce qui a pu se passer. Pendant 4 mois, la police française mène l'enquête dans toute la région. Des inspecteurs de Scotland Yard se rendent également sur place en France. Malgré tous leurs efforts, aucun témoin ne se manifeste. Personne n'a vu le Lord. Seul indice, et on va beaucoup en reparler dans un instant, seul indice, l'analyse des appels sans réponse à destination du portable d'Anthony ont été relayés par 2 bornes de France Télécom. Les enquêteurs commencent à envisager le pire, mais ils doivent aussi se rendre à l'évidence. S'il y a eu crime, c'est pour l'heure un crime sans cadavre. Et le mystère va durer pendant 4 longs mois avant que l'enquête ne rebondisse de façon spectaculaire, comme Dan va nous le raconter dans un instant maintenant, l'invité de l'heure du crime, Paul Lefebvre, qu'on retrouve après cette pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, on vous raconte avec mon invité Paul Lefebvre, qui connaît ce dossier dans les moindres détails, parce que vous aussi, en fait, vous avez été touché. Je disais tout à l'heure que tous ceux qui ont approché ce dossier ont été touchés par l'histoire et par le personnage de ce malheureux, parce que...
Ce qui m'avait touché dans ce dossier-là, même encore aujourd'hui, parce que quand on regarde l'histoire, elle est fabuleuse, c'est que cette jeune femme... sur lesquels on pourrait d'ailleurs réfléchir parce qu'elle a été elle-même issue d'une famille difficile avec des violences du père, etc., etc. C'est pas le début de sa vie n'a pas été entouré de roses et comme la fin non plus d'ailleurs. Bon, mais enfin c'est elle qui a planté les dernières roses. Le problème c'est qu'elle l'a eu, elle lui a fait le coup du canapé comme on dit, c'est-à-dire que le Lord qui est déjà amoureux fou de cette femme et surtout de son corps parce qu'il y avait véritablement une
attirance. Elle était très belle.
Oh, c'est une belle splendide. Et alors elle lui a fait le coup du bébé, je suis enceinte. Alors ce type là, il a cru. Et c'est le mariage s'est fait là-dessus et les donations tout de suite.
D'accord.
Bon. Et d'ailleurs, si mes souvenirs,
alors, elle n'était pas. Excusez-moi, il faut comprendre, elle n'était pas enceinte.
Pas du tout. Elle était enceinte.
Vraiment le coup du bébé.
Le coup du canapé, comme on disait dans le temps. Et alors, lui, il plonge là-dedans comme c'est pas possible, avec d'autant plus de facilité que c'est un homme d'une grande naïveté. Il a peut-être eu un grand appétit des femmes, mais pas une grande connaissance des femmes. Hein, dans ce cas-là. Bon, passons. Et alors, donc, elle lui fait le coup. Il l'épouse et commence à lui faire des tas de donations. Et puis, brusquement, il a dû s'apercevoir que ça n'était pas vrai. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
Voilà, si
bon,
oui.
D'ailleurs, c'est pas dans le dossier. Hein.
Il n'a pas mis 2 ans à savoir qu'elle n'était pas enceinte.
Le problème, c'est que là, ça, la fissure s'est produite là. Et puis, en fait, ce que cet homme cherchait, c'était pas tellement une compagne ou un corps ou des corps. C'était probablement des distractions et l'idée qu'il existait aux yeux de quelqu'un.
D'accord.
Au fond, c'était un peu ça. C'est bon. Oui. Alors, c'est dommage que il n'ait pas eu des amis ou une famille qui lui ait donné, suggéré des occupations plus costauds, solides, etc., etc. Bon, passons. Bon, c'est bien de planter des arbres, mais c'est tout. Hein.
Oui.
Donc, dans ce dossier-là, ce personnage-là
c'est
me.
Ça qui, ouais, je comprends. Ouais.
Et l'autre aspect de ce dossier qui m'a semblé très intéressant. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que il y avait ce foutu téléphone qui ne répondait pas, mais qui réagissait.
Oui, sur 2 bornes, d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, l'une qui était du côté de Théoule-sur-Marne, d'ailleurs, et l'autre qui était dans la région de Villeneuve-Loubet.
C'est des premières fois, ma connaissance, mais je ne pense pas me tromper, que cette géolocalisation est entrée dans une enquête criminelle, et que finalement, ils ont réussi à localiser le portable, donc le corps.
D'accord.
C'est-à-dire c'était dégueulasse d'ailleurs parce que on sait qui a fait ça. Oui. Marek a lancé le corps dans une décharge.
Une décharge sauvage au fond d'un ravin. Oui.
Bon, c'est même pas le respect, même pas le courage
donc,
de faire un
donc,
coup.
Donc, excusez-moi, Paul. Donc, c'est la géolocalisation qui permet de retrouver le corps. C'est pas les aveux de Jamila.
Non, c'est la géolocalisation.
C'est après, donc en fait, on s'intéresse.
Arrivé à la deuxième borne, ils ont commencé à faire le tour comme ça.
D'accord.
D'ailleurs, elle a toujours dit Ça a été démenti, bien entendu, qu'elle n'avait pas, qu'elle ne savait pas où il était.
Parce qu'elle n'était pas là.
Qu'elle, qu'elle est poursuivie. Alors qu'on sait qu'en réalité, elle l'a suivie en voiture, etc.
Alors, qu'elle ait suivi qui? Son frère. Parce que là, maintenant,
là, il faut parler du frère.
Il faut parler du frère. Ben, on va faire une chose. On va peut-être faire une pause tout de suite, hein. Puis ensuite, on va parler vraiment, du frère. Parce
et de
que...
la sœur, ce serait bien aussi.
Et de la sœur, si, si vous le souhaitez. En tout cas, qu'on comprenne comment les policiers finissent par résoudre ce mystère qui durait depuis plusieurs mois, puis après eh bien, on parlera évidemment du procès, des enjeux de ce procès, et avec nos invités que je citais tout à l'heure, et notamment celui qui a été l'avocat de la partie civile de la famille de Lord Ashley Cooper.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est Paul Lefebvre, qui a été passionné. Il nous a expliqué tout à l'heure pourquoi c'est passionné par cette histoire de ce lord anglais qui va en fait être assassiné après cette rupture avec cette jeune femme très très belle qu'il avait vraiment couverte de cadeaux et d'attention pendant 2 ans. Et puis il était tombé amoureux d'une autre, il voulait se séparer. Et ça a certainement été le mobile du drame, puisque 4 mois, je crois, après sa disparition, on va retrouver son corps dans les circonstances qu'on a racontées tout à l'heure. Dans 7-8 minutes, on aura au téléphone Maître Philippe Soucy du barreau de Nice, qui est l'avocat de la famille du Lord, qui nous parlera du procès, bien sûr, et puis de la dignité extraordinaire, d'ailleurs, de cette famille anglaise venue en France assister au procès de ceux qui était accusé de cet assassinat. Alors, je dis ce parce que je vais vous redonner la parole dans un tout petit instant, Paul Lefebvre, mais le temps de dire que évidemment, comme dans toutes les enquêtes, les policiers s'intéressent au cercle rapproché de la victime. Il y a cette Jamila avec le passé dont on a parlé. Elle va finir par craquer. Ouais. Et elle va raconter la soirée du 5 novembre aux enquêteurs. Alors, elle va raconter, évidemment, c'est sa version, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais elle va dire que, bah oui, Anthony est bienvenu chez elle ce soir-là, mais il était ivre, il était très agressif, et puis, son frère, le frère de Jamila, Mohamed, qui était présent, avait aussi beaucoup bu, dit-elle, et les deux hommes ont fini par s'insulter, et puis le Lord se serait jeté sur le frère, bagarre, Mohamed aurait pris le dessus, et il aurait fini par étrangler l'aristocrate, et Jamila avoue qu'elle a aidé à transporter le corps dans la voiture de son frère, mais que celui-ci était parti dans la nuit pour se débarrasser du corps et qu'elle n'était pas allée avec lui. Alors, évidemment, cette version va être corrigée. Mais racontez-nous comment les policiers sont arrivés à avoir des arguments pour faire craquer Jamila.
Une astuce qu'on ne rencontre pas vraiment dans les enquêtes criminelles.
Oui. Surtout dans les films.
C'est une instruction qui avait sonorisé, comme on dit, sonorisé, ça veut dire qu'il plaçait des micros.
Oui.
Elle était à cette époque-là dans une clinique psychiatrique. Elle était en somme sous garde hospitalière, si on peut dire ça comme ça.
D'accord.
Et il y a sa sœur qui s'appelle Naïma, je crois, Naïma, qui vient la voir. Et ni l'une ni l'autre ne savent qu'elles sont écoutées.
La conversation est enregistrée, d'accord.
Et ce qui est très intéressant, parce que c'est vraiment, quand on lit sur le dossier, la conversation de ces deux jeunes femmes, on les imagine l'une contre l'autre en train de parler comme ça, etc. Ouais. Donc la sonorisation a été bien faite, entre parenthèses. Bon, on peut vous le dire, ça. Finalement, la première, elle lui dit, comment se comporter, faut que tu aies l'air d'avoir de la peine, et puis en fait tu vas pas t'habiller comme d'habitude, il faut t'habiller
C'est la sœur qui donne des conseils, d'accord.
Et puis au bout d'un moment elle lui dit, mais au fait ça s'est passé comment, parce que elle sait que c'est le frère qui a tué, mais elle lui dit, mais tu l'as donné. Alors au début elle Jamila dit elle répond pas, puis au bout d'un moment elle lui dit oui, j'ai donné. C'était, comment dirais-je, la preuve qu'elle avait donné, je crois,
de l'argent
à son frère, qu'il exécute le mari. Ouais. Pourquoi exécuter le mari? Parce que lui, il était en train de de révoquer toutes les donations. Enfin, il avait l'intention de le faire. Il avait des moyens. Je me demande même si quelque part, mais ça, il faudrait voir avec son avocat de l'époque, si le problème de du mensonge sur l'enfant n'était pas quelque chose de possible à exploiter. Oui. Enfin, le résultat, c'est que là, elles se font toutes les deux piégées comme ça. Et franchement, dans ma mémoire, qui est ma carrière, qui est assez longue, comme bien le dire. C'est la première fois que j'entends cette histoire de sonorisation. D'accord. Au fond de subterfuge pour piquer un témoignage. Ça. Oui. Et le problème était d'autant plus intéressant que là apparaît, au travers de la conversation de ces deux jeunes femmes, le visage donc de leur frère, Marek, qui est au fond la duplication du visage du père, c'est-à-dire c'est un père violent. Et Marek, c'est un mec violent. Elles ont peur de lui. En même temps. Elle savent, Jamila sait qu'elle peut lui demander d'exécuter contre une petite pige, qui est d'ailleurs 150 000 francs, je crois. Je me souviens plus, c'était enfin un truc important. Enfin important, mais bon.
Et
en même temps, capable de le faire, mais en même temps, en ayant la peur de lui, quoi. Cet aspect de la tromperie du juge d'instruction, tromperie entre guillemets, c'est un subterfuge intéressant.
Alors, pour aller vite, simplement, parce qu'on va parler du procès maintenant, mais cette version, évidemment, elle n'est pas crédible pour les policiers, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que Jamila est allée avec Mohamed et qu'ils se sont débarrassés ensemble. Son frère ne connaissait pas la région. D'accord. Donc, ça, c'est en tout cas l'accusation. Est persuadé que donc le mobile est financier et que les deux Mohamed et Jamila sont bien responsables de la mort de cet homme, l'une ayant été la commanditaire mais ayant assisté au crime, donc ce qui expliquera, mais ça on en parlera dans un instant avec Maître Philippe Soucy, que en tout cas au cours du premier procès,
on connaît pas les conditions exactes du meurtre.
Oui, ils ont été condamnés à la même peine de 25 ans de prison. Alors d'ailleurs, justement, on va évoquer ce procès avant de prendre Maître Soucy au téléphone. C'est un document RTL qu'on a retrouvé dans les archives de la rédaction à l'ouverture du procès, en fait, devant les assises des Alpes-Maritimes. C'était le 22 mai 2007 et dès le début, bien sûr, les deux accusés clament leur innocence, disent que cette mort est accidentelle. Pierre Thébault suit le procès pour RTL. Il raconte, écoutez.
Dans le box des accusés, le tandem frère-sœur jugé pour l'assassinat de Lord Shaftesbury a livré un bien curieux spectacle pour cette première journée d'audience, une pièce relevant presque autant de la psychiatrie que des assises, avec alternance d'exaltation, d'abattement, de colère, de délire. À les entendre, Mohamed Mbarek aurait presque commis un crime par inadvertance et sa sœur en serait devenue folle. Philippe Soucy, avocat de la partie civile.
Vu le nombre de versions qui ont déjà été développées dans ce dossier, je suis pas très surpris de ce qui s'est passé ce matin, qui est une sorte de défense titanique, mais je le regrette pour elle d'abord, et puis je le regrette aussi pour l'accusé qui n'apporte pas un seul instant de crédibilité, évidemment. C'est aussi dommage pour elle. C'est son procès, on aurait pu espérer qu'elle s'explique de façon différente.
Ce soir, c'est en anglais que Mohamed Mbarek a présenté ses excuses à la famille du Lord anglais, disant la honte de son geste ayant provoqué une mort accidentelle.
Et nous retrouvons donc Maître Philippe Soucy dans un instant après cette pause.
L'heure du crime sur RTL.
Il y a un instant, on évoquait l'ouverture du procès aux assises des Alpes-Maritimes de Jamila Mbarek et de son frère Mohamed. On va tout de suite entendre un autre document RTL. C'est le jour du verdict, c'est trois jours après, le 25 mai 2007. Ils sont tous les deux condamnés à 25 ans de prison. Et sur place, Pierre Thébault recueille au micro d'RTL les premières réactions de la famille de la victime et de leur avocat, qu'on va avoir en ligne dans un instant.
I believe justice was done in the end and I'm satisfied with the result.
La justice est passée, je suis satisfait du résultat. C'est Nicolas Shaftesbury, 29 ans, le fils d'Anthony Ashley Cooper qui parle. C'était hier soir à l'issue du verdict, des mots sobres, tout comme ceux de l'avocat de la famille, Maître Philippe Soucy.
Le réquisitoire a été suivi, pour moi ça n'est pas une surprise. Cette décision est conforme à l'instruction qui s'est déroulée pendant 3 ans, elle est conforme à ce qu'on a entendu pendant les débats. Donc véritablement une décision sans surprise. Je ne porte pas de commentaire commentaire parce que je l'ai déjà dit, j'ai la chance et l'honneur de défendre des personnes qui ne sont pas venues réclamer vengeance, solliciter vengeance. Ils n'ont pas de commentaire à faire sur la peine, la justice est passée. Mais tout ça est très conforme à ce que nous venons de vivre depuis 4 jours.
Même retenue de la part de France, Ashley Cooper, la sœur de Lord Shaftesbury.
Ce qui est important pour nous, c'est que les deux accusés ont eu la même sentence. Parce que nous avons toujours pensé qu'ils étaient responsables tous les deux. Je pense que c'est un gros soulagement pour la famille, pour la mémoire de mon frère.
Nous allons prendre tout de suite en ligne et en direct Maître Philippe Soucy, donc du barreau de Nice. Bonjour Maître.
Oui, bonjour Monsieur Prodel.
Voilà, on vous a retrempé un peu dans l'ambiance de ce procès à l'époque. Pour vous aussi, justice a été faite?
Oui, tout à fait. C'était là. Effectivement, j'écoutais la réaction que j'avais eue à l'époque. Je disais, d'ailleurs, Paul Lefebvre l'a souligné tout à l'heure, la grande dignité de la famille d'Anthony Ashley Cooper, qui n'était pas venu dans un esprit de vengeance, qui souhaitait que justice se fasse. Le procès s'était passé dans ces conditions-là. Le procès en cours d'appel avait été différent, par contre.
Alors oui, on peut en dire un mot tout de suite, parce que en fait, Mohamed Mbarek n'a pas fait appel de cette condamnation à 25 ans. En revanche, Jamila Mbarek disait, mais c'est pas normal que je sois condamné à 25 ans de prison comme mon frère parce que j'ai pas tué. Et qu'est-ce qui s'est passé en appel? Sa peine a été réduite, je crois.
Oui, plus exactement, Mohamed Mbarek avait fait appel de la décision de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes. Et de façon surprenante, mais je sais pas si c'était vraiment surprenant compte tenu de sa personnalité, il s'est désisté de cet appel. Il s'est désisté de cet appel, donc il était cité comme témoin devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Et il n'est même pas venu comme témoin, puisqu'un médecin du centre de détention où il était incarcéré avait établi un certificat au terme duquel, compte tenu de son état psychiatrique, il n'était pas transportable, donc il avait fait appel, il s'est désisté, il n'était pas témoin. Jamila Mbarek, elle, avait fait appel, et effectivement, sa condamnation a été réduite de 5 ans à la cour d'appel, puisque les deux avaient été condamnés à la même peine, considérant sans doute que elle était l'instigatrice. Elle était poursuivie pour complicité, mais elle était l'instigatrice de ce crime. En tout état de cause, la cour d'appel a réduit sa peine de 5 années, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.
Maître, pourquoi il n'y a pas eu de peine de sûreté de prononcer dans cette affaire-là? C'est ça qui me chiffonne un peu, parce que qu'est-ce qui a incité les jurys d'appel de ne pas prononcer de peine de sûreté? D'ailleurs, les premiers jurés non plus, il n'y a jamais eu de peine de sûreté prononcée. Pourquoi, votre avis?
Alors, de façon
générale. C'est de l'indulgence, ça.
Oui, alors de façon générale, les peines de sûreté sont réservées aux criminels les plus dangereux, récidivistes, etc. Pourquoi la peine a été baissée pour Jamila Mbarek? Je pense que vous le disiez d'ailleurs vous-même, Paul Lefebvre, au début de l'émission, son enfance, sa personnalité. Je pense que. J'aime pas le mot pitié, mais je pense qu'on a tenu compte aussi de ce qu'avait été sa
compassion. Allons-y.
Une compassion vis-à-vis d'elle, qui a amené les jurés à baisser la peine. Mais voyez-vous, même la peine à 20 années de réclusion criminelle, bon, pas de commentaire de la famille Ashley Cooper là-dessus. La justice est passée, voilà.
Et cette famille, Maître, donc vous la connaissez évidemment très bien. Comment ont-ils vécu cette affaire? Avant le procès, quoi, quand ils ont appris le drame.
Très évidemment, j'enfonce une porte ouverte très très difficilement, avec beaucoup de souffrance. Alors c'est vrai que cette affaire a défrayé la chronique en France, mais aussi et surtout en Angleterre. Pas de la même manière, comme vous pouvez l'imaginer.
Journalistes anglais.
Voilà, avec une presse qui a fait des articles invraisemblables sur
tabloïd,
la personnalité. Voilà, tout à fait.
Tous les tabloïds anglais étaient là.
Absolument.
Avec des unes qui étaient limites.
Avec des lignes qui étaient limites. Et d'ailleurs, vous savez, nous-mêmes, du côté des partis civils, on n'a jamais cherché à cacher les aspects un peu plus sombres de la vie d'Anthony Ashley Cooper. C'est pas quelque chose on n'a pas tenté de l'édulcorer. Vous le rappeliez tout à l'heure, il y a eu une césure dans sa vie. Notamment en 1999, le décès de sa mère. Bon, c'était plus un enfant, mais lui, il l'a vécu à sa manière, c'était parfaitement respectable comme quelque chose d'absolument dramatique. Et à partir de 1999, il va changer de vie. Voilà, vous le racontiez très bien tout à l'heure. Il va se couper de son milieu d'origine. J'ajoute que À partir du moment où il va rencontrer et se marier avec Jamila Mbarek en 2002,
oui.
Donc c'est 2 ans avant le, ouais. avant oui, le, avant l'assassinat, le drame, ouais. elle va également contribuer à le couper avec, ouais. avec sa famille, puisqu'il va même y avoir un épisode où le fils, l'un des fils...
Ah oui, le déjeuner à Paris, oui.
Oui, le déjeuner à Paris où il quitte la table.
Ouais.
Parce que on ne parle à table, excusez-moi la trivialité du propos, mais il dit, moi je ne peux pas rester à table, on ne parle que de pognon.
Eh oui.
On parlait que d'argent, et on a des témoignages comme ça dans le dossier d'une visite aussi absolument invraisemblable qui avait été rendue dans le château du Lord, dans le Dorset à St Giles, où elle s'était adressée à tout le monde en disant « je veux ce tableau, je veux celui-ci, je veux celui-là,
ah, enfin bon, voilà ». Ouais, donc ça c'est le contexte, le vrai contexte de.
Elle avait pété les plombs, faut dire les choses comme comme ça. Quoi.
Ouais.
Elle s'était. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a été un bouleversement. Mmh. Si cette jeune femme avait été maligne, si elle avait été structurée et intelligente, elle aurait continué sa vie tranquillement.
Mmh. Mais tant... ça, on va en parler dans un instant avec maître.
C'est le destin. Hein.
Avec maître Franck de Vita quand
oui,
on a enregistré
c'est
ce matin.
C'est une bonne question parce que c'est la question de Paul Lefebvre et de Jacques Pradel, c'est la question du mobile.
Ben oui.
Voilà, c'est-à-dire que Jamila a essayé de faire dire, justement par par son avocat que vous aurez après moi, qu'elle n'avait pas de mobile. En réalité, c'était un aspect passionnant de cette affaire. Le mobile ne s'apprécie pas au moment du crime. Je veux dire, c'est facile de voir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, de reconstruire la réalité et de dire elle n'avait pas de mobile. C'est comme l'histoire du testament ou de la révocation des donations. Jamila, elle, évidemment, elle n'est pas juriste. Moment, en 2004, dans son esprit, ça ressort des témoignages, ça ressort de tous les éléments du dossier, dans son esprit, elle pense, même si c'est faux, elle pense qu'elle va tout perdre.
Parce qu'elle
veut plusieurs millions d'euros. Divorcé.
Mm-hmm.
Anthony Ashley Cooper, qui a déjà donné tant, ne veut plus.
Oui.
Bon. À partir de ce moment-là, elle se dit, mais je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Ce qui est faux sur un plan juridique, parce que révoquer des donations, c'est compliqué, même s'il la menace de le faire. Le testament, ça renvoie à la déclaration d'absence 10 ans après la déclaration d'absence de la personne qui a disparu. Mais si elle ne le sait pas. Donc le mobile doit s'apprécier dans l'état d'esprit de la personne. Et dans son état d'esprit, elle pense qu'elle va tout perdre.
Et juste une toute dernière question, maître. Est-ce que, avant d'être assassiné, Lord Cooper avait justement changé ses dispositions? Est-ce qu'on a retrouvé un écrit, ou est-ce qu'il avait décidé de destituer cette femme?
Alors non, c'est intéressant parce que le mariage a lieu à la fin de l'année 2002.
Oui.
Et un testament est fait par Anthony Ashley Cooper.
Mm-hmm.
Un testament colossal.
Oui.
Ce testament, c'est 2,5 millions de livres.
Oui.
Ce sont des revenus de 300 000 livres par an. Ce sont des pensions, des meubles, etc. Et ce testament, Jamila Mbarek, c'était important, disait qu'elle ignorait l'existence de ce testament. Or, l'instruction avait démontré qu'elle était parfaitement au courant de ce testament, à un point tel que, avant même d'être interpellée, elle avait pris contact avec les avocats anglais du Lord pour avoir, parce qu'elle l'avait peut-être perdu, une copie de ce testament.
D'accord,
en tout cas, il y avait un testament qui n'avait pas encore été remis en cause.
D'accord,
et dans son esprit, Anthony Ashley Cooper disparu, le testament venait à s'appliquer.
Voilà, absolument. Écoutez, je vous remercie parce que là, vraiment, ça décrypte et ça éclaire bien les mobiles...
personnalité de cette femme.
Crapuleux. Et la personnalité de cette femme, on en reparle dans un petit... Merci beaucoup, Maître Soucy, d'avoir été avec nous en direct. Dans quelques instants, on entend un extrait de la conversation qu'a eu Laure Bourlard ce matin avec Maître Franck De Vita, qui pouvait pas être en ligne en direct avec nous, et qui a abordé la question des zones d'ombre qui subsistent, selon lui, dans le dossier. Il nous reste encore quelques instants avant la fin de cette émission. On a, avec Paul Lefebvre, donc depuis tout à l'heure, décrypté le mieux possible cette histoire absolument passionnante. Mais on voulait absolument donner la parole aussi à celui qui a été l'avocat de la principale accusée, Jamila Mbarek. Il s'appelle Maître Franck de Vita. Et vous allez l'entendre, donc, il revient dans cette conversation enregistrée ce matin au micro de Laure Bourlard. Il revient sur l'affaire, sur les procès et sur ce qu'il appelle les zones d'ombre qui persistent, selon lui, dans le dossier.
Le procès, bien évidemment, a consisté pour la défense de Jamila
à reprendre les mystères et les incohérences du dossier, à savoir, bon, vous m'accusez de l'avoir fait venir à mon domicile, mais vous n'avez pas la preuve, bien au contraire, que je l'y ai attiré, puisque c'est lui qui m'a téléphoné, et non pas moi, premièrement. Deuxièmement, vous dites que je suis celle qui bénéficie, ou qui aurait dû bénéficier de l'héritage. Or, je n'héritais de rien, premièrement. Deuxièmement, vous dites vous-même que vous n'êtes même pas sûr que j'ai attiré mon frère à mon domicile, puisque peut-être que ça s'est passé ailleurs. Donc, toutes ces zones d'ombre, tous ces points très contestables, tous ces points accusatoires contestés par la défense de Djamila, ont été mis en avant devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes en première instance, puis devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en cause d'appel.
Donc, l'explication de l'accident, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
C'est de dire, mon frère était alcoolisé ce jour-là, il était chez moi. Le Lord est rentré d'une nuit alcoolisée aussi, le ton est monté, ils se sont empoignés, ils se sont battus, le Lord est mort. Sa thèse a toujours été la même depuis le début, mais tout ça, je dirais, en instantané, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prémédité, qui n'était pas prévu. C'est ce qu'elle a toujours dit.
Donc vous, en tant qu'avocat, vous êtes plutôt frustré de la décision de justice ? Vous auriez aimé, vous aussi, aller plus loin ou...
Frustré, pas vraiment frustré. Bon, 25 ans à Nice, 20 ans à Aix, bon, c'était déjà une petite diminution et déjà une remise à niveau, je dirais. Le frère, 25 ans, et elle, 20 ans, bon, c'est déjà un peu plus logique, je dirais, sur le plan judiciaire. Après, frustré, oui, frustré parce qu'on aime bien avoir des réponses lorsque l'on est une partie au procès pénal, et surtout une cour d'assises, on aime bien avoir des réponses, on n'aime pas les zones d'ombre. Et là, les zones d'ombre, je vous l'ai dit, parler de préméditation, bon, elle a été constatée judiciairement, mais enfin, sur quels éléments ? Parler de commandite, non, puisqu'elle n'a pas été condamnée pour ça. Parler d'aide ou assistance pour la retirer au domicile, l'accusation nous dit que ça s'est peut-être pas passé au domicile, ça fait quand même beaucoup de zones d'ombre. Et ça engendre une frustration.
Voilà, donc c'était Maître Franck de Vita. On va pas refaire le procès, hein, Paul Lefebvre, mais quand même remarquer, après ce qui vient d'être dit, que effectivement, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé, ni même où. Hein,
bon. Il fait bien le job. Hein.
Bah, c'est un aveugle, c'est l'aide.
Écoutez. Non, mais au contraire, il fait le job, c'est bien. Non, le problème, c'est vrai, il a raison.
On ne sait pas comment ça s'est passé.
Je vais répondre de manière un peu cynique à qui profite le crime.
Est-ce qu'on ne sait
surtout
pas
comment, oui, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on sait comment ça s'est terminé.
Oui, ça, bon, bien sûr.
Et on sait aussi qui avait le mobile. Elle croyait avoir le mobile.
Oui, c'est ce qui
ce que disait
Maître Soucy
auparavant. Très, très important. Oui. Comme elle était aussi inculte que belle, elle se serait fait conseiller.
On lui aurait dit, mais vous ne pourrez pas toucher le...
Voilà, vous ne perdez pas tout. Bon, il y a des procédures, etc. Oui, etc. Bon, c'est un élément qui s'ajoute au dessin que l'on peut faire du visage de cette jeune femme qui va... Ce qui est la question qui est dans mon esprit, c'est comment sera-t-elle, Djamila, quand elle va sortir
Elle a été condamnée en février 2009 à 20 ans. Voilà.
Bon, elle va sortir vers les 2020. Oui. Oui. Enfin bon.
Voilà.
On lui demandera.
On dit en tout cas que le mode d'emploi de la prison, c'est aussi de permettre aux gens qui ont été condamnés de se réinsérer. C'est tout le.
C'est beau comme la romaine.
Merci beaucoup, Paul Lefebvre. Alors, on vous retrouve évidemment mercredi sur W9 avec une nouvelle édition d'Enquête criminelle. Et puis, à des dates que je ne connais pas, sur Planète Justice pour Les Cicatrices de la Justice, qui est une série passionnante.
Merci.
Merci Paul. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.